6h02, lundi 2 décembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. On a moins 7 degrés, ciel partiellement nuageux. Et si c'est moins 7 à Montréal, dans d'autres coins du Québec, c'est nettement plus froid. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Alma, ce matin, un auditeur qui nous signalait un moins 22 degrés. Et ça demeure froid là-bas pendant une bonne partie de la journée. Mais pour Montréal, donc, un dégagement ce matin. Ce sera généralement ensoleillé, maximum prévu, autour de moins 4 ce soir et cette nuit. Quelques nuages, minimum de moins 8. Pour demain, belle journée encore là, du soleil, avec un maximum de moins 3. Et on va entrer dans une période de quelques jours de neige intermittente. Il n'y a pas vraiment de quantité, là, 1-2 cm. Mais c'est vrai pour la journée de mercredi, jeudi et vendredi, et le retour du soleil est prévu pour samedi prochain. Premier dossier ce matin, celui de la mort de cet homme de 82 ans qui est décédé dans un centre de soins de longue durée en Mauricie. Très bizarre cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on peut dire officiellement? Officiellement, donc, c'est un patient qui était au centre d'hébergement Roland Leclerc à Trois-Rivières et il s'appelle Guy Bastien. Souffre d'Alzheimer et était hospitalisé depuis vendredi pour une fracture au crâne et une hémorragie cérébrale. Il a fait une chute. Qu'est-ce qui a amené la chute? La famille est convaincue que c'est une altercation, ou en tout cas un geste posé par l'agent de sécurité qui a entraîné la chute de M. Bastien. On dit que M. Bastien souffrait donc d'Alzheimer, qui n'était pas agressif, mais évidemment pouvait se tromper de chambre, pouvait être perdu. Premier constat, donc, il fait une chute. Deuxième constat, malgré les blessures, malgré le fait qu'il vomisse, on n'a pas jugé bon de le transférer dans un hôpital. Et c'est son fils qui est arrivé sur place, qui a constaté l'état de son père, qui a fait le 911. Il aurait eu, semble-t-il, un peu de brasse camarade avec l'agent de sécurité. Et finalement, M. Bastien est décédé des suites de ses blessures. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas la réponse, évidemment, ce matin. Il y aura enquête du coroner. Ce qui me tape un peu, c'est la réaction des autorités. On a droit toujours à ce genre de phrase. Le CIUS de la Mauricie a demandé une enquête du coroner, j'espère, là, ça veut dire, de toute façon, elle s'imposait d'elle-même, là, l'enquête du coroner. Et d'autre part, ils nous disent que les protocoles ont été suivis et respectés, mais vont quand même faire une enquête sur ce qui s'est passé. Alors, d'un côté, ils nous disent, ayez pas peur, là, tout ce qui est prévu a été suivi, les fameux protocoles, mais on va enquêter quand même. On comprend que l'idée, c'est de protéger l'institution. Alors, pourquoi M. Bastien est tombé? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu le transférer? Il semble qu'on a dit à la famille, dans les courriels que j'ai reçus en fin de semaine, que c'était préférable de le garder au centre de soins de longue durée. Mais dans quel état? Et si ce n'est pas le fils qui appelle le 911, qui appelle? C'est vraiment le fils qui a constaté les blessures de son père. Là. T'sais, personne n'est informé, personne n'est avisé. Alors, la famille, on va parler avec France Bastien, la fille de M. Bastien, un peu plus tard ce matin. Mais qu'est-ce que ça montre, au-delà là, de comprendre dans ce cas précis ce qui est arrivé? D'abord, on a des gens de plus en plus vulnérables, des gens qui ont une série de problèmes de santé. On les retrouve dans des centres d'hébergement. Est-ce que le personnel est en nombre suffisant? Est-ce que le personnel est de façon adéquate, formé pour faire face à ces cas-là? Quand tu es agent de sécurité puis travailler avec des patients Alzheimer, c'est pas la même affaire que d'être dans un centre commercial. C'est pas la même affaire que d'assurer la sécurité du personnel, par exemple, dans un établissement psychiatrique. Là, on nous dit oui, ils sont très bien formés. Il y en a d'autres qui en doutent sérieusement. L'autre chose que ça montre, c'est que quand vos parents sont dans des établissements comme ça, il faut les visiter, il faut aller voir ce qui se passe, il faut arriver à des moments qui ne sont pas prévus. Et combien de personnes, malheureusement, sont laissées seules? Je ne dis pas que les gens sont de mauvaise foi, là. Je ne dis pas qu'on a voulu agresser M. Bastien, mais ça se peut que dans le brouhaha, il y a une chute qui se fasse. Là où c'est particulier, c'est qu'on n'a pas jugé bon le transporter à l'hôpital. Alors, donc, le centre intégré a demandé une enquête du coroner. Ils ont même dit que tous les intervenants ont agi correctement et ont suivi le fameux protocole. Et là, la santé publique assure que les gardiens de sécurité sont formés pour intervenir auprès des résidents qui pourraient être confus ou même violents. Vous comprendrez que ça, c'est le spin officiel, comment réagir quand un événement comme celui-là arrive. Et puisqu'on est en fin de vie, il faut également parler de ce débat qui a été relancé vendredi, quand la ministre McCann a annoncé donc qu'il y aurait des consultations, vendredi matin, pour la deuxième phase de l'aide médicale à mourir. C'est un sujet évidemment très important et c'est vrai que l'emphase est mise beaucoup sur l'aide médicale à mourir. Et tant mieux que ce soit accessible aux patients qui souhaitent l'obtenir. Que la résistance s'atténue, d'après ce qu'on comprend. Mais pour beaucoup de gens encore, pour toutes sortes de raisons, l'aide médicale à mourir n'est pas une option. Il faut respecter ça. Et la question, j'en parlais avec des gens qui connaissent ça en fin de semaine, comment on peut accompagner des gens pour qui la médecine ne peut plus rien faire? Il n'y a pas que des cas de cancer, là. Il y a d'autres cas également. Et là, on parle, je le disais, de l'aide médicale à mourir, mais on peut aussi parler des soins palliatifs. On peut parler également des soins de confort. On peut parler de retraite thérapeutique. On peut parler de ce qu'on appelle une sédation palliative continue. Quand on s'assure que la personne, que le patient ne souffre pas puis que c'est une décision qui est prise consciemment, puis à quel moment l'expression « soins palliatifs » au sens plus large, pas juste là, les deux, trois dernières semaines, là, mais comment on accompagne les gens, puis ça se passe où? À l'hôpital ou ailleurs? Et au-delà de l'aide médicale à mourir, je pense qu'il y a une réflexion plus globale à faire sur la façon dont on veut finir notre vie. Et sur, dans certains cas, je ne dirais pas l'acharnement, mais est-ce que ça vaut la peine d'opérer un patient? Quand je dis la peine, là, c'est aussi vrai pour le patient. Des chirurgies à un âge très avancé, alors qu'on ne fait que peut-être prolonger un peu la vie. Et aussi, puisqu'on parle de la fin de la vie, hier, Véronique Yvon est venue nous parler du début de la vie, en ramenant ce débat entre les parents adoptants et les parents biologiques. Et le ministre Boulay nous a dit la semaine dernière, vous savez, c'est une question légale, c'est de la discrimination compte tenu de l'impact physiologique quand une femme donne naissance à un enfant. Je ne sais pas, là, je ne suis pas un avocat, là, mais les parents qui adoptent vivent des défis qui sont, dans certains cas, ceux de tous les parents, puis dans d'autres qui sont bien différents. Des enfants qui ont, dans beaucoup de situations, des problèmes d'attachement. Il peut avoir des problèmes de santé. C'est toute une adaptation. Quand un enfant de 2 ans arrive, quand un enfant de 3 ans arrive, des gens qui accueillent des enfants de la DPJ. Je veux dire par là, je trouve ça bien particulier qu'on ne reconnaisse pas à des parents qui adoptent le même potentiel de journée, ou en fait de semaine de congé. La différence n'est pas spectaculaire, là. On a amenuiser l'écart, mais ça demeure pareil une différence. Et donc, avec Véronique Yvon, on va en parler tantôt. T'sais, il me semble que c'est normal de réclamer une certaine égalité, une certaine parité. On va aller retrouver Marc. On a regardé ce qui se passait du côté de la 13, qui est souvent problématique. Puis je pense que ça va l'être encore plus là, à partir du 6 janvier, avec évidemment ce qui se passe au train de deux montagnes, là, puis les fermetures. Très bien. Réunion aujourd'hui des premiers ministres du Canada, c'est-à-dire les provinces. Donc, François Legault y participe, c'est à Toronto. Et ça s'appelle cette fameuse rencontre de la Confédération. Évidemment, on essaie de dégager une espèce de front commun des provinces pour le respect des juridictions. Et même s'il y a des gens qui s'étonnent de voir Jason Kenney, François Legault faire des alliances, Doug Ford et François Legault, d'ailleurs, il paraît qu'ils s'entendent très bien. Bernard nous disait vendredi qu'ils ont soupé ensemble. Et son petit doigt lui disait que ça se passait à la résidence de M. Legault. C'est là que ça s'est passé. Doug Ford, il n'est pas intéressé par l'électricité du Québec. Il dit d'abord qu'il n'y en a pas besoin, qu'ils ont des surplus d'énergie. Ce n'est pas un refus de principe, c'est un refus pragmatique. Et il y a évidemment tout le litige. Et là, on a vu d'abord l'opération du Manitoba, médiatique, en disant « voici les 21 bonnes raisons de venir s'établir au Manitoba ». Alors, c'est un pied de nez dans les médias ici, au gouvernement. L'Ontario qui se mêle de la loi sur la laïcité. Le Parti québécois qui répond par une lettre ouverte dans des journaux en Alberta. Alors, tu sais, il y a des tensions. Il y a des tensions. Puis c'est sûr que ça tourne autour de la laïcité, ça tourne autour des pipelines. Alors, est-ce qu'on va être capable de passer par-dessus ça lors de la rencontre des premiers ministres pour essayer de dégager ce front commun face au premier ministre Trudeau? C'est une très bonne question, puis on va en reparler tantôt aussi avec notre ami Bernard. Jason Kenney, lui, qui a déclaré en fin de semaine qu'il veut replacer l'Alberta au sein de la Fédération et que c'est un bon stratège, là, c'est un bon négociateur. Ben, lui, il dit, moi, je vais essayer de trouver une entente raisonnable. Et quand vous parlez des conservateurs, autant Andrew Scheer multiplie les gaffes une après les autres. Là, il est rendu avec une libérale dans son entourage. T'sais, tout pour se faire aimer par sa gang. Lui, ça sera pas très long, d'après moi, que ça va être bye-bye, Charlie. Puis il va se faire remplacer. Et les gens sont de moins en moins gênés à le dire ouvertement. T'sais, des fois, dans les partis politiques, il y a un petit peu de magouille. Ça placote un dans le dos de l'autre. Puis bon, là, c'est assez transparent. Et alors, autant Scheer est en train de sortir tranquillement, autant Kenney, lui, est bien installé. Et certains, d'ailleurs, le voient comme étant éventuellement chef du Parti conservateur. Puis entre-temps, vous avez un historien, Frédéric Bastien, qui a porté plainte devant le Conseil de la magistrature contre la juge en chef de la Cour d'appel, Nicole Duval-Essler, qui doit se prononcer sur la loi sur la laïcité de l'État. Et la question, la requête, c'est est-ce qu'on suspend cette loi qui, bon, vous le savez, interdit les signes religieux pour les employés de la fonction publique en position d'autorité, ce qui inclut les enseignants. Alors, pourquoi cette plainte? D'abord parce qu'elle participe, semble-t-il, bientôt, dans quelques jours, à un événement, une allocution qu'elle doit donner devant un groupe qui publiquement a exprimé son opposition à la loi sur la laïcité. Elle a parlé aussi du multiculturalisme. Autrement dit, l'historien Bastien pense qu'elle a un jugement biaisé et qu'en conséquence, elle doit se récuser ou on doit la tasser parce qu'elle aurait exprimé par des activités externes, mais aussi par des commentaires faits, son orientation. Entre autres, elle a demandé à l'avocat du gouvernement s'il portait un signe religieux. Également, elle aurait démontré un certain favoritisme, un penchant. Tout le monde ne s'entend pas là-dessus. Alors, et le conseil va étudier la plainte, puis on verra, mais en même temps, elle doit rendre une décision quand même, une première décision, parce que malgré le fait qu'il y a une clause dérogatoire dans la loi là, qui a été intégrée, est-ce qu'on peut suspendre l'application de la loi en attendant d'en faire un débat sur le fond? Voilà la question qu'elle doit trancher. Bon, maintenant, parlons des fameux journaux de Capital Média. Là, on est dans Le Soleil, Le Nouvelliste, La Tribune, La Voix de l'Est, Le Quotidien. La semaine dernière, on a vu qu'il y a Desjardins qui a accepté de revoir sa position. Desjardins valse. Desjardins a dit oui. Desjardins a dit non. Puis Desjardins a dit, ben là, finalement, devant la pression, je vais y penser. Et là, en plus, vous avez la pression exercée par Québec. Où M. Legault dit à Desjardins, si vous ne mettez pas l'argent là-dedans pour sauver l'information régionale, je vais me questionner sur la valeur des crédits d'impôt qu'on accorde à Desjardins. C'est pas mettre de la pression. Sérieusement, si on faisait un sondage au Québec, est-ce qu'on veut vraiment que Desjardins, là, je parle des membres de Desjardins, là, investissent, c'est pas gigantesque comme montant, c'est 2 millions. Mais là, la pression est forte. Pierre-Carl Péladeau, hier, a pondu un long texte sur les réseaux sociaux, entre autres sur la page Facebook. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans le fond, qu'il est le seul à pouvoir sauver le modèle, à pouvoir sauver les journaux. Le modèle coopératif, ça ne marchera pas. Ça va pomper de l'argent des fonds publics. Alors que lui, avec les synergies, un modèle d'affaires plus efficace, il va être capable de rendre ça profitable. Parce que l'objectif de Québécois, c'est que ça soit profitable. La question fondamentale, voulez-vous qu'un seul média, un groupe, un empire, soit propriétaire de tous les quotidiens du Québec francophone, à l'exception du Devoir? Est-ce que M. Pelado peut être propriétaire du Journal de Québec, du Journal Le Soleil? C'est ça la question. C'est ça qui fait tiquer le gouvernement à Québec, là. Mais dans la vraie vie, il n'y a pas grand monde qui est intéressé par Le Soleil, par l'aventure, si ce n'est qu'avec une injection de fonds publics puis du capital de risque de sauvetage, avec une caisse de retraite qui coûte cher, puis avec une baisse de la publicité en région qui est assez quand même marquée. Alors, et là, on comprend pourquoi il y a cette offensive. D'un côté, Pelado, il dit, moi, là, je vais les acheter. M'avait dit non, on va vous le faire regretter. Je vais le prendre, je vais m'en occuper. On va rationaliser, puis ces journaux-là vont vivre. On va tout contrôler, mais ça va marcher. Sinon, vous avez un canard boiteux, une coop, puis ça va aller de mal en pis, puis vous allez perdre de l'argent, puis les taxes, puis les investisseurs de capital de risque. Puis c'est ce que Québec veut pas. On veut pas que ça soit Pelado qui soit propriétaire. C'est assez clair depuis le début. Fitzgibbon, disons, il s'en cache pas trop. Là, ça a dérapé aussi dans les accusations. Moi, il y a quelque chose qui commence un petit peu à me fatiguer. Tu sais, Pierre-Carl Pelado a dit, c'est vendredi ou jeudi, qu'il y avait une attaque de Fitzgibbon qui était misogyne parce qu'il visait deux membres de Québécois, du conseil d'administration, qui sont également chez Desjardins. Écoutez, on fait de la place avec raison aux femmes dans les conseils d'administration. C'est pas parce qu'on met en doute, parce qu'on fait une accusation qu'elle est misogyne. Tu peux dire qu'elle est non fondée, mais c'est pas parce que c'est une femme. La même affaire la semaine dernière à Valérie Plante, qui dit que quand elle est critiquée, ce sont des messieurs. Est-ce qu'on peut critiquer la mairesse de Montréal quand on est un gars ou s'il faut qu'on se la ferme? Tu sais, dites-moi que vous n'êtes pas d'accord avec l'argument. Dites-moi que ce qu'elle reçoit comme critique n'a pas d'allure. On peut en débattre, mais on la critique pas parce que c'est une femme. Là où je suis d'accord avec elle, c'est que le niveau d'insulte, comme ça a été soulevé à l'Assemblée nationale, quand on parle de femmes, on parle d'attaques qui sont là misogynes, qui sont d'une vulgarité et d'une grossièreté. Mais je pense que le droit de critiquer des élus qui prennent des décisions, de dire que Montréal s'endette puis que Montréal dépense largement, je pense qu'on a le droit de dire ça. Un mot également, vite, sur l'attaque qui s'est produite à Londres vendredi. Là, on découvre des trucs. C'est que le terroriste qui a été neutralisé par la police est aussi quelqu'un qui est invité à une espèce de conférence d'ex-détenus pour parler de leur expérience. Puis il y avait un petit bracelet GPS qui, d'après mon ami Fabrice, donne pas grand-chose. Fait que comment ça se fait que ce gars-là s'est retrouvé en liberté? Les Londoniens, les Britanniques se posent bien des questions. Puis vous avez peut-être vu les images des citoyens qui sont intervenus pour tenter de le neutraliser avec une espèce de harpon puis avec un extincteur, là. C'est-à-dire que le gars avait une fausse ceinture de bombe, là, une veste de bombe, d'explosifs. Mais ça, tu le sais pas là, quand tu t'approches dans de telles circonstances. Alors, il faut le souligner. Et aussi, un mot sur l'Iran. On a beaucoup d'auditeurs qui m'écrivent qui sont originaires d'Iran. Le total jusqu'à maintenant, là, c'est 180 morts. Tout ça a commencé il y a environ deux semaines avec une augmentation radicale, 50 % du prix de l'essence. Et dans les 72 heures, il y a eu des manifestations dans plusieurs villes et villages, de grandes villes comme des petites communautés. Et les forces de l'ordre sont intervenues et on a ouvert le feu sur des manifestants. La plupart étaient des jeunes hommes âgés entre 19 et 26 ans, souvent des chômeurs, situation économique difficile, et des gens qui n'étaient pas armés. On a pourtant tiré sur eux. Alors, c'est une crise sans précédent depuis la Révolution, je rappelle. Au début, on parlait de 10, 20, 30, 40 morts. Là, on est rendu facilement à 180. 6h22. Autoroute des Laurentides.